On va finir la matinée, et qu'on n'est même pas en retard, avec Serge Orban, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive CNRS Montpellier. Le CNRS a travaillé pendant des années dans un programme Garrigue, qui est un petit peu oublié maintenant, mais dont on refait émerger tout ça. Le pays des Garrigues, c'est le pays des chênes verts. Un peu plus du Pas-de-Calais aujourd'hui, mais d'abord des chênes verts. Et bien le chêne vert n'est pas ce que vous croyez.
Bonjour à tout le monde. Alors donc en fait moi je suis aussi depuis plus de 5 siècles dans ce pays, donc je peux en parler avec des gènes qui sont sélectionnés. Donc je vais parler de la chaîne verte. Donc en fait la thématique c'était Garrigues. Alors en fait. Au départ, je vais essayer de lever un certain nombre d'ambiguïtés sur la définition de garrigue. C'est vrai que la garrigue, pour un écologiste, c'est une formation végétale à ligne bas. Et donc, en fait, souvent, on va parler des hautes garrigues du Montpelliérain. On va parler... l'IFN a défini une espèce de grand massif dit de garrigue, les hautes garrigues, qui ne sont pas du tout, en fait, des garrigues au sens... écologique du terme. Alors au départ, on va un peu parler de ça, puis on va parler de à quoi, comment fonctionne le chêne vert, et ça souvent on va avoir quelques surprises. Et puis après, je vais rajouter une couche sur qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans ou 100 ans à propos des changements climatiques. Voilà, donc c'est à peu près ce que j'ai prévu de vous raconter. Alors je ne sais pas comment on démarre ce truc, mais parce que je n'ai pas mes lunettes, donc... On connaît un certain nombre de vieux amis. Là. Voilà, alors donc, bon, ça c'est un dernier classique avec derrière la Serane, et c'est un peu notre espace de jeu au CEF depuis un certain temps, j'allais dire. Donc, moi, dans ce paysage-là, on voit la tour dont on parlera tout à l'heure qui localise bien notre espace de jeu. Alors, bon, je vais avancer un peu. Ah non, là, c'est une marche arrière, donc... Voilà. Donc, je vais parler un peu, on va faire un peu de rappel d'écologie de base sur la Méditerranée. Ensuite, on va parler de l'écosystème avec fonction et service. Alors ça, c'est un outil qui pourrait nous permettre de discuter entre nous. Bon, en fait, c'est des notions intéressantes, mais je crois qu'elles sont assez peu utilisées dans les débats entre société et écologie, et puis on va parler de changement climatique. Alors donc, pour définir rapidement la Méditerranée, c'est tout ce qui est en rouge là, donc ça ne concerne pas que le tour de la Méditerranée, donc c'est défini par une zone isoclimatique, donc on voit la Californie, le tour de la Méditerranée, un peu d'Afrique du Sud et un peu d'Australie, un peu du Chili. Alors là, on va trouver des espaces qui sont, pour la garrigue, donc c'est sur calcaire ici, on va trouver le maquis en Corse, donc c'est déjà deux espaces qui sont bien définis et qui sont, aux États-Unis, c'est le chaparral, notre cousin de garrigue, et on va trouver des matorrales au Chili, le fynbos en Afrique du Sud, et bon, après, en Australie, je ne sais pas trop. C'est pas ça le... Donc, en fait, ce qui est important, c'est que c'est des formations qui ont convergé au point de vue physionomique. C'est-à-dire, on va trouver finalement, sous des mêmes climats, des trucs qui se ressemblent au point de vue physionomique. Et donc, ça a donné lieu à beaucoup d'études, de comparaisons et d'intercomparaisons au niveau évolutif et au niveau écologique. En fait, ça ne représente pas grand-chose. On a 2,75 millions de kilomètres carrés de régions dites méditerranéennes. Et puis alors, on va avoir quelque chose qui est assez caractéristique, c'est la présence d'espèces appelées persistantes, donc les evergreens. Donc le taillis de chêne vert, ça en fait partie. Mais c'est pas de la garrigue. C'est nouveau ça. Et puis bon, c'est un climat totalement imprévisible. Donc comment ce type de végétation... gère cette espèce d'imprévisibilité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir 5 mois de sécheresse et de redémarrer à l'automne. Donc ça, bon, c'est un peu pour présenter le chêne vert, parce que quand même, c'est un peu l'objet de ma communication. Ça, c'est des cartes plus ou moins IFN, si je me souviens bien. Donc ça fait quand même, entre dense et clair, ça fait pas mal de kilomètres carrés en France, ça fait 3500 km². Et si on fait autour de la Méditerranée, ça fait quand même 65 500 km². Il y en a beaucoup en Espagne, il y en a un peu partout autour de la Méditerranée. Donc c'est quand même un modèle biologique intéressant. Ce modèle-là, il est aussi important parce qu'il représente quelque chose qui est assez peu représenté dans, je dirais, lorsqu'on fait des études d'intercomparaison d'écologie à l'échelle globale. C'est le modèle des espèces feuillues à feuilles persistantes, par opposition à des pins qui, eux, aussi ont des aiguilles persistantes. Donc, c'est un bon modèle pour les intercomparaisons. Alors, quelque part aussi sur la place de ce chêne vert dans l'histoire des paysages. Bon, alors, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Grand Blanquet a beaucoup écrit sur le Quercetum Vallo Provinciale. Donc, c'était l'école Sigma Montpellier-Rennes. Et donc, en fait, pour dire que ces paysages, c'est quelque chose. J'ai trouvé intéressant la première communication, justement, sur le fait que le paysage change et le nom reste, et ça, c'est quelque chose qui est. Et là, il y a peu de traces sur ces histoires de paysages. Bon, je présente cette carte-là parce qu'elle est intéressante. C'est quand on a acheté la Corse. Alors, je n'ai pas dit que c'était une affaire quand on a acheté la Corse. C'était la carte que Louis XV a fait dresser sur la Corse, qui est une carte qui est redoutable au niveau des détails et qui nous permet de voir comment les paysages ont extrêmement changé. Et ce changement que l'on observe, ici on a des traces écrites très très précises sur cette carte. On a travaillé nous sur une région à côté de Corté et on a reconstitué l'histoire du paysage depuis 1765, je crois. La qualité de cette carte, on ne l'a pas ici, c'est dommage. C'est-à-dire que, ben, en fait, il aurait fallu que, lorsqu'on a acheté l'Occitanie, mais bon, on n'a pas acheté l'Occitanie, on nous l'a piqué. Donc, c'est un chien. Alors, ça, c'est des travaux qui ont été conduits par le CEF sur ce qu'on a appelé l'observatoire des changements écologiques, économiques et tout. C'était le Pirel qui pilotait ça. Et ça, je crois que c'est intéressant parce qu'en fait, plus d'autres collègues ont travaillé sur les changements de paysage avec des moyens qui étaient la carte postale pour certaines. Donc, on avait des photos avant, après. Alors, avant, après, c'est dangereux parce qu'en fait, entre les deux, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, ça traduit d'une manière générale l'augmentation de la forêt. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait à partir de photos aériennes sur la région de Saint-Martin-de-Londres. Et bon, c'est clair. La forêt arrive, la garrigue se casse la gueule, et puis les autres restent à peu près stables. Alors les autres, c'est culture plus ville, donc bon, donc ça veut dire que l'un remplace l'autre, c'est assez classique. Donc en fait, on est dans ce schéma-là, on est passé de pas beaucoup de forêt à beaucoup de forêt. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, pour la Corse, on l'a observé beaucoup plus tôt, c'est-à-dire ce changement de paysage classique donc pour la Méditerranée, c'est observé très tôt en Corse. Les gens sont partis aux États-Unis, enfin, en Amérique, et donc on a délaissé ces paysages. Et en Espagne, c'est un peu plus décalé parce que bon, l'agriculture a persisté plus longtemps. Alors, moi, j'ai un peu parlé de fonctions et services écosystémiques. Bah, c'est un outil qui a été mis en place par les écologues pour essayer de discuter avec sciences humaines et sociétés. Et bon, je pense que ça peut nous servir pour discuter entre nous. fonction, c'est ce sur lequel nous on travaille en tant que scientifique. Je dirais comment ça marche. Donc, on parlera de la forêt de Chenever tout à l'heure quand même pour dire comment ça marche. Et puis alors les services, c'est des processus qui bénéficient aux humains. Alors c'est une notion assez récente puisque c'est 97, un papier de Costanza dans la revue A For Impact Nature. Et donc, c'est on s'intéresse à fonction et services parce que c'est souvent à ce niveau-là que les changements climatiques vont affecter en premier. Alors, la grille de lecture, c'est, nous avons défini 15 fonctions et services. Alors, on pourrait en fait discuter sur cette liste, mais disons que bon, elle est bien pratique et moi, je l'ai modifiée, je suis seulement traduit en français. Formation du sol, contrôle de l'érosion. Alors on va, en rouge, c'est ce dont je vais parler tout à l'heure. Régulation de la circulation de l'eau. Donc ça peut nous intéresser. Bon, à moins qu'on décide de ne boire que du vin, du pixel loup. Bien qu'il soit un peu cher. Purification de l'eau. Régulation du climat régional. Alors ça, je n'en parlerai pas, mais on aurait pu en parler. Séquestration du carbone et effet sur le climat et la de la terre, récréation, je l'ai mis en orange parce qu'en fait, en blanc je n'en parlerai pas, en orange vous en avez parlé, pollinisation, traitement des effluents, alors ça peut-être aller, on en parlera tout à l'heure, bois, bon ça c'est pas terrible, autre production, ressources génétiques, culturelles, spirituelles, esthétiques, on vient d'en parler, hein. Recyclage des nutriments, interception de la pollution, alors je vais en parler aussi. Alors ça c'est plutôt la pollution de l'air dont je vais parler. Et contrôle des nuisibles. Donc ça c'est une liste qui a été bâtie par des grands écologistes à l'échelle globale. Donc c'est une liste dont on peut la prendre. Je crois que ça serait intéressant que l'on peut-être fabrique quelque chose de plus méditerranéen. Ça c'est applicable à l'échelle du globe et donc quelque part on s'y retrouvera forcément. Alors. On va commencer par le début, c'est nous on nous a demandé d'évaluer l'Europe s'est dotée des moyens pour évaluer ces puits de carbone en disant que peut-être les écosystèmes terrestres allaient sauver la planète. C'est-à-dire les forêts allaient piéger plein de carbone et donc la solution c'était les forêts. Alors donc nous ça nous a aidé à relancer des études assez lourdes d'écologie in situ. C'est long et lourd, et donc c'était combien la forêt de chêne vert pouvait-elle fixer de carbone. Alors, avant de savoir combien elle peut fixer, c'est combien il y a de carbone dans une forêt de chêne vert. Alors ça, c'est des chiffres intéressants, c'est un taillis classique de... Alors celui-là, il est un peu vieux, mais ça arrive de plus en plus. C'est un taillis de 60 ans, donc c'est du domanial, l'ONF, merci, s'il y a déjà de l'ONF, parce qu'ils nous laissent nous amuser dans leur forêt. Et ce qui est important, c'est que, on a 166 tonnes de carbone par hectare, dont 30% dessus, 30% dans la partie fonctionnelle souterraine, et 40% dans la matière organique du sol. Donc en fait... finalement, ce qu'on voit en Méditerranée, c'est 30% de carbone. Et ce qui est important aussi, c'est la présence de beaucoup de carbone dans le sol, donc il va jouer un rôle déterminant dans le bilan de carbone. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit les forêts grandir que le bilan est toujours très favorable en termes de bilan global de l'écosystème. Ça a été une des erreurs du début de... que les collègues forestiers ont souvent fait au départ, c'est de voir qu'un arbre grandissait, c'est pas parce que l'arbre grandit que le bilan de carbone de la forêt est que la forêt est un puits. Alors donc ça c'est la tour que vous avez vue tout à l'heure sur la forêt de Puchavon avec des tas de passerelles, c'est notre radeau des Simanou. Donc c'est un grand projet qui vient de se terminer Carbo Europe, qui a duré 10 ans à peu près. Et donc, il nous a permis d'évaluer, bon, ça c'est l'entrée de carbone, un gramme de carbone par mètre carré par ans en moyenne. Donc ça, c'est des données qui ont été moyennées sur 10 ans d'observation. Alors pour vous donner une idée de la lourdeur des manips, la tour de flux enregistre des données à 20 Hz par seconde, c'est-à-dire 20 informations par seconde. Donc sur 10 ans, ça fait des mégabits à traiter. Donc la respiration, dont j'ai parlé de son rôle essentiel de tout ce carbone qui était en particulier les 40% qui étaient dans la matière organique du sol, qui souvent, suivant des conditions de climat, en particulier de chaleur et d'humidité, pouvaient relarguer énormément. Pour un bilan, bon, finalement, assez 291 grammes de carbone par mètre carré. Alors, si vous êtes venu en voiture, vous avez dépensé un certain nombre de grammes de carbone. Donc, imaginez le nombre de kilomètres carrés de forêt qu'il vous faudrait pour être neutre du point de vue carbone. Bon, alors, ça, c'est le côté négatif. Et le côté positif, c'est que c'est pas si mal que ça, si on le compare à ça aux forêts du nord de l'Europe. Parce qu'en fait, c'est l'intérêt du chêne vert, c'est qu'il a des feuilles toute l'année, donc il fixe du carbone au printemps et à l'automne. Donc. Du coup, finalement, on n'est pas si nul que ça, alors que le sol le plus chabot, c'est un karst. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de réserves en eau. C'est pas vraiment facile de pousser sur ce type de milieu. Alors, on peut se dire que finalement, à part la forêt ou la garrigue, il n'y a pas grand-chose à espérer de ce type de milieu. Alors, si l'on regarde un peu la variabilité de ce puits de carbone, et c'est là où on en reparlera avec les changements climatiques tout à l'heure, c'est que tout se détermine sur les pluies de printemps. C'est-à-dire que lorsque j'ai pas mal de pluies de printemps, comme en 2004, 2008, le point, on ne l'a pas mis parce que l'année n'est pas finie, mais on aurait pu le mettre, parce qu'il est à côté du point 2004, parce que c'est quand même un printemps plutôt merdique qu'on a eu. Par contre, ce qu'on voit, c'est 2006, où le bilan net de carbone est pratiquement à 100 grammes, parce qu'on a eu 2007-2006 des printemps très très secs. Donc en fait, on voit que sous l'hypothèse de changement climatique qui pourrait aller vers des printemps de plus en plus secs, le puits de carbone, il se casse la gueule. Et donc finalement, dans nos écosystèmes services, c'est pas terrible au point de vue puits de carbone. Donc, déjà, bon, c'est quand même pas la solution pour sauver la planète. Alors on va parler de quelque chose. Il y a eu une question qui a été posée tout à l'heure sur ressources en eau. Alors effectivement, quelque chose qui a été oublié par les gens qui sont lancés dans l'évaluation des puits de carbone, c'est que, c'était pas forcément des écologistes, c'était des microclimatologistes, c'était des gens qui s'intéressaient à beaucoup de choses sauf au fonctionnement des forêts. Ils ne savaient pas que finalement, pour fixer du carbone, il fallait consommer de l'eau. Et ça, c'est quand même la base. C'est vraiment la base des cours d'écologie de première année de licence. Et ça a conduit à des drames, parce qu'en fait, la plantation de ce qu'ils ont appelé des Kyoto Forest, en Argentine, en Uruguay, ils ont mis des kilomètres carrés de Kyoto Forest. Donc c'est des grandes multinationales qui plantent des forêts. Et puis les gens, ils se retrouvent sans eau. Eux, ils ont des crédits carbone, et les autres, ils achètent de l'eau en bouteille. Voilà, donc ça c'est l'écologie globale. Pour dire que ça consomme beaucoup d'eau, la tour de flux nous permet aussi de mesurer en continu bilan énergie, bilan hydrique. Là, les estimations, c'est 500 mm sur notre moyenne de 10 ans. 500 mm d'eau, la chaîne est verte, consomme 500 mm d'eau. Observation aux indices de corrélation qui sous-estime un peu. Parce que finalement, le principe de mesure, c'est un anémomètre sonique qui enregistre des vitesses du vent dans toutes les directions et qui, lorsque des gouttes de pluie tombent sur l'anémomètre sonique, et ça patine un peu. Alors, du coup, on sous-estime. Alors, donc, on a d'autres méthodes d'estimation, beaucoup plus compliquées. Mais on arrive quand même avec trois méthodes d'estimation, bilan hydrologique, bilan de du couvert ou corrélation turbulente, quelque chose qui converge vers 600 mm d'eau consommée par la chaînée verte. Alors, il pleut sur Puchabon 900 mm, donc ça nous fait 300 mm pour notre ressource. Donc ça, c'est, je dirais, c'est quelque chose dont on y peut. Ah, mais si, on y peut. C'est, si on veut, sachant que les pluies, finalement, sont aléatoires, et sur lesquelles, bon, la tendance serait plutôt à la baisse, vu les changements climatiques, on peut s'inquiéter de savoir que va devenir cette évaporation et combien notre ressource, quelle ressource on aura. Voilà, donc ça, c'est ça. Par contre, si on travaille sur des formations végétales à ligne bas, j'ai pas écrit de garrigue parce que ça pouvait compliquer le sujet, on va avoir des consommations en eau beaucoup plus faibles. Et donc, je dirais que s'il y a un endroit où on peut gérer notre ressource en eau, c'est en passant d'un milieu formation végétale à ligne haut à un milieu de formation végétale à ligne bas, ben on peut gagner 80 000 mètres cubes par kilomètre carré. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui peut intéresser. Alors, je dirais que ça, c'est très iconoclaste. Si je raconte ça à Veolia ou je ne sais pas quoi, il me cassait la gueule à la sortie. C'est presque arrivé, mais par contre, des collègues d'Afrique du Sud font ça. Ils ont enlevé, parce qu'en fait, le fynbos, il était en train de se recouvrir d'espèces qu'on leur avait introduites. Les Australiens avaient envoyé des acacias, des achéas, nous on leur avait envoyé des pins. Et donc, actuellement, ils ont enlevé les pins sur plus d'un million d'hectares. Et du coup, la ressource en eau qui avait disparu à Canberra, la ressource en eau revient. Donc, en fait, ce que je dis là, c'est pas du. C'est très, très, très utilisé ailleurs. Alors, bon, on peut réfléchir dans un schéma de comment pourrait être les paysages méditerranéens, de se dire que finalement. Le retour à des espaces plus ouverts de garrigue, bon, qui au-delà de la biodiversité peuvent aussi, si on s'intéresse à des services écosystémiques comme ressources en eau, c'est quand même, on a une petite marge de manœuvre. Alors, bon, je ne voudrais pas casser complètement le chêne vert avant la fin de mon exposé. Le chêne vert est un émetteur de composés organiques volatiles. Lui, il émet des terpènes, donc des composés C10. Le chêne blanc, son confrère, j'allais dire, lui émet des isoprènes. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement récent. On a trouvé ça, le collègue allemand qui a trouvé ça travaille dans notre équipe, il a été recruté. C'est quelque chose qui est relativement peu connu, mais qui quand même intéresse énormément l'ADEME, puisque ça, ces résultats que je vous présentais, c'est ceux d'une thèse qui a été financée par l'ADEME. Et donc, on a fait le bilan, on a vu la carte tout à l'heure du chêne vert sur la région Languedoc-Roussillon, on a fait le bilan des émissions par le chêne vert. Alors, ces émissions sont pilotées par une activité enzymatique qui a été montrée par des collègues allemands. Donc, ce n'est pas des résidus que la plante a trop de carbone. Et donc, non. En fait, c'est une émission qui est non stockée dans la feuille. C'est quelque chose qui est. Si on prend un pin d'Alep, si on coupe une aiguille, on va sentir, on va avoir des terpènes qui sont stockés. Mais ce n'est pas du tout des composés stockés. C'est des composés émis tout de suite après la photosynthèse. Alors, ces composés organiques volatiles. Ils interagissent avec la pollution automobile, donc avec les NOx, pour faire de l'ozone de basse couche. Et donc, on va avoir des pics d'ozone autour des villes méditerranéennes, autour des chênes verts, qui sont en grande partie, alors on peut dire que finalement il n'y a pas de pollution industrielle, bon, il y a quand même des pollutions automobiles, et cette pollution à l'ozone est la conséquence de ces deux interactions. Bon, il n'y a pas que... Il n'y a pas que la végétation naturelle, mais je crois que c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire on voit que comment les conséquences des interactions ville-campagne, ville-arrière-pays sont importantes. Alors ça, c'est ces émissions dépendent largement d'une saisonnalité qui est basée sur des activités enzymatiques. Ensuite, donc, elles sont dépendantes de la température et elles sont un peu pénalisées par le stress. Et alors, moi, je ne vais pas faire comme un ex-président des FEM des États-Unis qui a dit que ce n'est pas les voitures qui polluent, mais les arbres. Les arbres, les chênes verts étaient là avant les voitures, donc quand même, ils ont une certaine antériorité. Et donc, si on veut enlever la pollution de l'air, il vaut mieux quand même limiter la circulation automobile. Donc, ça fait quand même des tonnages qui sont non négligeables. Ça, c'est des estimations sur uniquement le chêne vert. Donc, ça fait quand même 11 000 tonnes de terpènes émis par le chêne vert à Languedoc-Roussillon. Bon, et l'année 2003, dans la mesure où on a eu quand même des stress qui ont pénalisé un peu, moins de photosynthèse, donc moins d'émissions de composés organiques volatiles, on est passé à... Mais c'est quand même des choses qui sont à tenir compte, c'est-à-dire que moi je parle de services, mais on peut aussi se dire que finalement, dans une vision un peu globale du fonctionnement d'une région, ces cadastres d'émissions intéressent énormément les gens qui s'intéressent à la pollution de l'air. Et donc, je dirais, il y a des requêtes de ce type-là. Et donc, si on rajoute les autres espèces végétales, bon, le pin de lèvre, lui, il n'émet pas grand-chose. Mais le chêne blanc, oui, avec ses isoprènes. Donc, si on rajoute tout ça, ça fait quand même pas mal de pollution. Et alors, c'est vrai que lorsque les mesures d'ozone sont faites dans l'école de Saint-Génis-du-Fesc, ben là, les pics d'ozone se trouvent là, en fait. C'est-à-dire, si vous regardez les chroniques, le pic, il est souvent là. On est vraiment à l'interface. Alors, on va parler de changement climatique. Alors ça, en bas, ce graphique, c'est des gens qui ont fait une synthèse à l'échelle globale des prévisions. Et donc, Med, ça veut dire Méditerranée, pour ceux qui voient sur ce graphique qui n'est pas très lisible. Et donc, c'est ce tour de la Méditerranée, on prévoit des baisses de précipitations de l'ordre de 22% pour les mois avril à septembre et moins 10% globalement donc pour les autres mois, octobre, mars. Voilà. Donc ça, c'est un peu là-dessus que l'on peut se dire qu'est-ce qui va se passer pour notre chêne vert à l'avenir. Donc c'est défini, la région méditerranéenne, celle qu'on a vue tout à l'heure autour de la Méditerranée, c'est donc défini comme un hotspot de changement climatique, c'est-à-dire que c'est vraiment là où tous les modèles convergent pour dire que on va avoir un peu plus de chaleur et un peu moins d'eau. Alors, si l'on s'intéresse à ce qu'il en est de notre région, donc ça c'est des données qui viennent du modèle global du CNRM de Météo France, donc, qui a fait un modèle à petite échelle à 50 km, sur lequel on a dérivé des choses comme celle-là. Donc on voit qu'on va vers plus de sécheresse estivale, donc ça corrobore un peu ces analyses un peu globales, et donc idem pour les augmentations de température. Alors, pour essayer d'anticiper les conséquences de ces changements climatiques, on a mis en place, à côté de notre terrain de jeu favori, un dispositif d'exclusion de pluie, qui est celui-là. Donc, c'est pas sponsorisé par Castorama, malheureusement. On exclut 30% des précipitations et on se situe dans le schéma précédent, c'est-à-dire moins 30% de précipitations. Et on regarde ce qui se passe, on est en train de regarder ce qui se passe. Le dispositif fonctionne depuis 2003. Et
le système D, ça, c'est vachement beau. Hein? Ça fait tout à fait système D, je trouve.
Non, mais ça coûte cher quand même. Oui. Et par contre, là, on est parti dans un truc un peu plus délirant. C'est un toit mobile qui fait, donc le rail là, il fait 60 mètres de long, une quinzaine de mètres de large. Et donc là, on va simuler à la demande des sécheresses. Donc une qui sera une sécheresse d'été de 6 mois et une qui sera une sécheresse de printemps de 6 mois. Et on verra si on arrive à, si le chêne vert, on l'aura. Alors, si l'on reprend un peu ce que disait tout à l'heure, j'ai parlé de Brown Blanquet, je parlais des approches bioclimatiques, donc le centre, le CEFE ne s'appelle plus Louis-Amberger, mais toute cette clique de bioclimatologues ont proposé quand même des choses intéressantes. Et ça, donc, à partir de l'approche bioclimatique, si on applique des schémas de changement climatique, on va retrouver des nouvelles aires potentielles pour les espèces. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a fait un peu pour voir ce qui allait se passer ou qui pourrait se passer à la mesure où on laisse les choses toutes seules, c'est-à-dire qu'on ne met pas des villes à la place de ce qui va être du vert foncé ou... Et donc on voit contraction, mais ça c'est quelque chose qui est la limite du chêne vert autour de Narbonne. On voit bien qu'il y a la limite vert. Et donc par contre, on voit bien aussi qu'il peut s'étaler. Mon collègue de Blandas là-bas, ça c'est une photo prise par l'homme de Blandas. Donc on voit le chêne vert en train de s'installer donc, à côté de la chêne blanc. Donc ça c'est des choses qui possible. Par contre, nos hypothèses de travail à nous, c'est que ces changements climatiques pouvaient induire des interactions assez drastiques avec... ici, c'est la carte que l'on a fait par télédétection de l'attaque de l'Imantria dispar en 2004. Comparé à la végétation en 2003. Donc on voit, et on a reporté dessus la carto qu'a fait, je ne sais plus si, je crois que c'est l'ONF qui nous a proposé cette cartographie. Donc ça se superpose assez bien, on voit l'impact de cette défoliation massive qui s'est aussi produite en 2005, les chenilles sont allées un peu plus bas. Et donc là, c'est des choses que vous avez vu pas mal, j'en ai pris qu'une chenille, mais il y en avait beaucoup. Et donc il y a eu un impact assez drastique ça c'est peut-être quelque chose qui il y a beaucoup de travaux qui se font aux États-Unis sur ces interactions entre changement climatique et parasitisme et donc ça c'est peut-être quelque chose qui notre hypothèse c'est que bon, le chêne vert avait moins 30% de pluie à Puchavon. Mais je dirais que finalement, il ne s'en porte pas trop mal. Donc, c'est un peu loupé, avec moins 30%. Par contre, on pense que les interactions seront beaucoup plus importantes que les effets directs. Donc, ça, c'est... Alors, une de ces interactions, j'ai choisi de parler des chenilles, parce que, mais ce qu'il y a, ce n'est pas démontré. Bon, le papier, c'est NAPNA, c'est quand même une revue un peu sérieuse. Et par contre aussi, donc... ça c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, donc c'était l'exposé qui a fait référence aux travaux de Michel Etienne. Michel Etienne, c'est un ancien du CERF, je crois qu'il a fait sa thèse au CERF, si je me souviens bien. Et donc c'est l'augmentation de la durée de la sécheresse associée avec ces baisses de précipitations. Et ça c'est des simulations qui ont été conduites non pas sur le sud de la France, mais... à propos d'une thèse qui a été faite en Corse, alors c'est peut-être un mauvais modèle pour les feux, ou un excellent modèle pour les feux. On a comparé notre modèle avec des observations de changement de végétation, et donc on voit que si on regarde observation S0, c'est-à-dire on a des probabilités. Alors qu'est-ce que veut dire en bas G, c'est grassland, LS c'est plutôt garrigue, donc l'eau shrubland. HES c'est plutôt le maquis arbousier, des forêts ouvertes ou des forêts denses. Et la conséquence de nos changements climatiques, c'est tendance aller vers plus de maquis et disparition des forêts denses. Alors ça, c'est une hypothèse quand même sérieuse. Il y a un grand projet européen qui est en train d'essayer de se monter actuellement justement sur cette thématique-là. Voilà, donc pour clore mon exposé, c'était que finalement, le chêne vert consomme beaucoup d'eau, fixe un peu de carbone, c'est pas si mal que ça. Il émet des composés organiques volatiles, ça c'est pas très bon si on a beaucoup de pollution de voitures à côté. Et puis son futur, compte tenu des dessèchements prévus, je pense qu'il va pas mal se porter. Et s'il se porte un peu mal, ça sera à cause de pullulations de type Limantria dispar, dont on ne sait pas très bien qu'est-ce qui règle qu'est-ce qui détermine en fait ces pullulations. Et aussi, un des dangers, c'est le régime des perturbations qui va être profondément modifié par des sécheresses plus fortes et puis des coups de chaleur comme celui de 2003 qui va être sans doute beaucoup plus présent dans le futur. Voilà, je vous remercie.